Une société de fourmis comprend théoriquement trois castes, les mâles, les femelles ou reines, et les ouvrières, appelées parfois aussi les neutres. Mâles et femelles sont normalement ailés, les ouvrières ne le sont jamais. Trois castes ne veut évidemment pas dire trois sexes. Il n'y a chez les fourmis, comme partout ailleurs, que deux sexes, bien sûr, mâles et femelles.
Chez les fourmis, chaque œil contient une trentaine d'ommatides, tandis qu'il peut y en avoir plus de 30 000 chez la libellule. Cet œil à facettes représente une conception très évoluée, mais tout à fait différente de l'œil des vertébrés. C'est en accord, d'ailleurs, avec d'autres faits qui conduisent à placer les insectes d'une part et les mammifères de l'autre aux extrémités de deux lignes d'évolution divergentes.
Les ouvrières ne sont que des femelles incomplètes, aux organes reproducteurs atrophiés et destinées aux travaux domestiques, à la chasse, à la construction, à la défense, etc. Comme chez les abeilles, le sexe est déterminé génétiquement, c'est-à-dire par la constitution chromosomique du noyau des cellules de leur corps.
Tous les yeux d'invertébrés dont nous venons de parler se forment chez l'embryon à partir de la peau. De ce fait, les cellules qui constituent la surface photosensible ou rétine présentent une disposition directe, c'est-à-dire qu'elles regardent vers l'extérieur. Au contraire, chez les vertébrés, la rétine est un prolongement du cerveau et de ce fait est inversée. Les cellules visuelles sont tournées à l'envers par rapport à la lumière qui, pour les atteindre, doit traverser les prolongements nerveux de ces cellules, ce qui semble assez surprenant de prime abord.
Les mâles ne possèdent que la moitié des chromosomes contenus dans les cellules des femelles et des ouvrières. On dit en biologie que les mâles sont haploïdes, les femelles diploïdes. Ce que l'on peut exprimer d'une façon bien plus simple, dans certains cas ce sera un peu simpliste, en disant qu'un œuf non fécondé donne un mâle, un œuf fécondé une reine ou une ouvrière.
Une autre expérience consiste à enfermer une fourmi de l'espèce Lasius niger dans une boîte obscure qu'on place à l'endroit où l'insecte a été capturé. Lorsqu'on la relâche plusieurs heures après, la fourmi suit une nouvelle direction qui fait, avec sa direction initiale, un angle égal à l'angle de rotation apparent du soleil pendant le temps de sa captivité.
Les batailles entre fourmilières d'espèces différentes sont extrêmement fréquentes, mais certaines formes sont particulièrement combatives. On peut citer en particulier les écitones d'Amérique et les anomas d'Afrique, ces derniers bien connu sous le nom de magnan.
On en conclut que l'animal se dirige de manière que l'image du soleil frappe toujours le même endroit de son œil. Ceci est concevable grâce à la structure particulière des yeux de tous les arthropodes, groupe le plus riche en espèces du règne animal, et comportant notamment les insectes, les crustacés et les arachnides. Cet œil est un œil composé, dit à facettes, dont chaque élément constitue un œil indépendant, ou presque. Cet élément de base, appelé ommatidie, peut ainsi fournir au système nerveux central de l'insecte un signe local, c'est-à-dire un message qui est reconnu comme étant envoyé par une ommatidie bien déterminée.
Les écitones n'ont pas de domicile fixe. Véritables nomades, elles se déplacent fréquemment, ces déplacements dépendant des phases de ponte de la reine. À intervalles réguliers d'environ 35 jours, celle-ci dépose en quelques jours une masse de plus de 20 000 œufs. Pendant l'accroissement de ce couvain, les ouvrières, excitées par l'odeur et les sécrétions, sortent en raid massif. Les colonnes serrées, protégées sur les côtés par les soldats, s'éloignent jusqu'à 300 mètres, pillant tout sur leur passage.
Je m'en voudrais cependant de vous quitter sans vous avoir parlé de l'objet de mes plus récentes études en Afrique centrale, l'étonnante biologie des fourmis voyageuses ou migratrices. Elles appartiennent à la sous-famille des dorylinées et on les appelle aussi les doryles. Tous les Africains les connaissent et les narrations effrayantes de leurs méfaits remplissent la littérature entomologique depuis un siècle à peu près. On parle de fléaux de la nature, de Huns et Tartares parmi les insectes. Les récits d'anciens coloniaux ont de quoi vous faire dresser les cheveux sur la tête. Les doryles vous surprennent la nuit, envahissent votre maison, recouvrent les murs et les plafonds et les planchers et vident votre poulailler en une nuit. Estimez-vous heureux de pouvoir trouver votre salut dans une fuite sans gloire. vouloir leur barrer la route avec des torches d'herbe brûlantes, les asperger d'eau bouillante ou d'essence, tout cela ne sert qu'à accroître leur colère et leur nombre.
Les anomas d'Afrique ont un comportement très comparable. Elles constituent de véritables armées, si puissantes que rien ne résiste sur leur passage. Tous les animaux, y compris naturellement les autres fourmis, sont détruits et les hommes eux-mêmes abandonnent leurs paillotes qu'ils ont l'avantage de retrouver débarrassés de la vermine qui l'infestait.
On a vu des serpents, des singes, des éléphants s'enfuir affolés ou périr les yeux et la cervelle lacérés par ces millions de mandibules pointues comme des poignards. Certaines coutumes indigènes portaient une condamnation à mort consistant à être pieds et mains liés, déposés sur un nid de ces terribles bêtes et être dévorés vivants par elles.
Par contre, ils trouvent aussi leurs maigres poulets réduits à l'état de squelette.
Ces mandibules sont si dangereuses que 18 heures après décapitation, elles percent encore la peau de notre doigt. Elles n'exerceraient cependant pas la puissance effrayante qu'on leur connaisse sans le nombre considérable des occupants d'un nid. Par des méthodes très précises, nous avons pu estimer à plus de 20 millions la population d'un grand nid d'Anoma vilverti, l'espèce la plus forte des fourmis voyageuses. Et comme au Congo belge, nous avons trouvé une moyenne d'un nid pour 3 ou 4 hectares, on comprendra facilement quelle force représentent les dorilles dans l'économie biologique de la forêt tropicale.
Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Ainsi, il semblerait que l'Asius niger n'utilise que sa mémoire pour retrouver une certaine direction, tandis que Myrmecia rubra y ajouterait les indications d'une horloge interne. Nous allons retrouver chez beaucoup d'arthropodes ce dernier mécanisme.
Comme Butin, elle rapporte presque exclusivement de la nourriture animale, des pattes d'insectes, des ailes, des thorax, des insectes entiers, des larves, etc. Une pièce trop grande est immédiatement dépecée sur place. Jamais les dorilles ne traînent une proie à reculons comme le font si volontiers et si adroitement les fourmis des bois. Une colonne de chasse ramène en un jour plusieurs centaines de milliers de pièces de butin. Il s'en faut de beaucoup, cependant, que tous les individus participant à une expédition rentrent avec du butin. 20% est un chiffre élevé. Des millions de fourmis courent donc des heures et des heures et dépensent une énergie folle en pure perte. Déploiement insensé pour un résultat ridiculement petit, oui, sans doute. Mais qu'importe, le but final est suffisamment atteint et l'individu dans cette masse ne compte pas. Aucune espèce de fourmi n'est moins personnelle, moins originale que ces voyageuses aveugles, psychiquement autant que physiquement.
Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi? Pourquoi pas?
Oh. Mais les colonnes de chasse ne constituent pas la seule forme d'activité des voyageuses. Il y a aussi les énigmatiques colonnes de déménagement, connues depuis longtemps, mais auxquelles, faute d'études systématiques, on a jusqu'ici donné une interprétation erronée. Dans ces colonnes, ce n'est plus du butin qui est transporté, mais du couvain. Tous les œufs, toutes les larves et nymphes de la population. 2 ou 3 jours sans interruption, le flot des déménageurs passe, toujours dans la même direction cette fois, en route vers le nouveau nid qu'ont commencé de creuser les premiers arrivés. On croyait que ces déménagements périodiques, tous les mois environ, étaient dus à l'épuisement progressif d'un terrain de chasse nettoyé de sa vermine, purgé de toutes ses charognes. Comme l'a fait Schneierla pour les écitons d'Amérique centrale, nous avons pu démontrer que les migratrices africaines, car c'est de réelles migrations biologiques qu'il s'agit, au même titre que chez les oiseaux ou les sauterelles, ne font point exode pour des raisons de circonstances extérieures, mais à cause de l'éclosion d'un jeune couvain qui exerce sur la population un effet stimulateur tel qu'une activité folle s'empare d'elle et qu'elle déménage avec tout son bien.
Une expérience célèbre consiste à désorienter une fourmi de l'espèce Messer barbarus en l'abritant de la lumière solaire directe, tout en lui faisant apparaître le soleil dans un miroir. De cette manière, le soleil change de 180 degrés de place pour l'animal qui, immédiatement, fait demi-tour, ce qui lui permet de conserver sa direction par rapport au soleil factice.
Si nous comparons cet étrange comportement aux mœurs de nos fourmis indigènes, nous sommes frappés par la différence foncière dans la psychologie des deux groupes. Les voyageuses semblent ignorer toute initiative personnelle. Tout, chez elles, est effet de masse et réponse à des stimuli collectifs. Aucun guide dans les colonnes, aucune exploratrice isolée à la recherche de la nourriture. À l'intérieur de la colonne elle-même, l'individu ne compte guère plus. Il est poussé par la masse plutôt qu'il n'avance par ses propres découvertes. Dans la colonne, on ne chasse pas, on ne fait que courir. La chasse se fait uniquement dans la dispersion qui précède la colonne. Et ici encore, c'est toujours au hasard que la fourmi individuelle rencontre sa proie.
Venons-en au type le plus compliqué et le plus intéressant du colonialisme chez les fourmis, celui où la population reste mixte en permanence, tout en formant cependant une seule communauté, une seule colonie. L'exemple le plus simple est celui de Strongylognathus testaceus, qui est une espèce assez rare. La reine est adoptée par des ouvrières d'une petite fourmi commune qui s'appelle Tetramorium cespitum. La reine Tetramorium restant en vie aux côtés de l'intruse, les deux espèces se multiplient donc dans des proportions sensiblement égales. L'extrême opposé est représenté par une forme récemment découverte en Suisse, le Teleutomyrmex schneideri, qui ne possède même plus d'ouvrières et dont les sexués, mâles et femelles, sont à ce point dégénérés qu'ils vivent comme une sorte de parasite extérieur, comme un pou, dirait-on, sur les ouvrières de Tetramorium cespitum.
Il existe plus de 300 000 espèces différentes d'insectes. Rien que les fourmis présentent des différences énormes d'ordre morphologique, et le comportement d'une espèce donnée est souvent à l'opposé de celui d'une autre. Lorsqu'on observe une fourmi isolée, exploratrice, on constate qu'à la sortie de sa fourmilière, son trajet comporte beaucoup de sinuosités, mais dans l'ensemble, elle demeure rectiligne.
Sur plusieurs hectares de forêt, pas un mètre carré n'échappe aux incursions et aux inspections de sa population. Elle s'éloigne à des dizaines de mètres du nid, se répand jusqu'au fond du bois parmi les herbes et les fougères, grimpe sur les arbres et les arbustes, se glisse dans les feuilles mortes et sous la mousse, passe de l'ombre à la lumière et de la lumière à l'ombre, comme si tout cela était la chose la plus simple et la plus normale du monde.
La même fourmi retourne à la fourmilière par un chemin sensiblement droit. L'hypothèse de la piste odorante doit donc être abandonnée, car le chemin du retour coupe souvent celui de l'allée. Faut-il en conclure que la fourmi revient par un chemin droit parce qu'elle reconnaît les lieux, qu'elle a en quelque sorte une notion de la topographie générale?
Et cependant, que ces fourmis sont minuscules dans la forêt et comme elles semblent errer à l'aventure. Mais n'ayez crainte, ces furteuses isolées rentreront infailliblement chez elles. Elles traverseront sans s'y perdre cette jungle embrouillée. Et nous ne savons quel souvenir elles ramènent de ces longs périples, mais un fait est certain. Ce soir, ou cette nuit, ou demain, elles seront de retour au gîte.
Pour répondre à cette question, cueillons une exploratrice près de son nid. Et au lieu de la laisser s'éloigner toute seule, transportons-la à une distance de quelques mètres de ce nid. Elle s'égarera, d'où la conclusion que l'hypothèse de la connaissance des lieux est à abandonner.
Il est clair que notre fourmi ne voit pas son nid à distance. Et suivrait-elle une piste olfactive? À travers ce dédale, c'est à peine plus probable. Ou possède-t-elle, comme d'aucuns l'ont prétendu, un sens spécial de l'orientation?
Ce qui importe pour le retour de l'animal, c'est son chemin d'aller. Lorsqu'on lâche une fourmi capturée sur le chemin du retour et déplacée latéralement, elle continue à marcher en suivant sa direction initiale, bien que son trajet la fasse passer loin de son nid. Lorsqu'elle a exécuté une marche correspondant plus ou moins à la distance qui la séparait de sa fourmilière au moment où elle avait été déplacée, elle s'arrête et montre des signes de désarroi.
Supposons une myrmica sur le voie de retour à 5 mètres, par exemple, de son nid. Nous l'interceptons et la faisons grimper sur une petite planchette, ce qu'elle fait sans rejimber. Nous déplaçons maintenant fourmi et planchette de 3 mètres vers la droite, en tournant de 45 degrés, le support et son occupant, de sorte que la tête de la fourmi se trouve dans une direction perpendiculaire à celle de sa marche de tout à l'heure. Déposons la planchette. Que fera notre myrmica? S'est-elle rendue compte de la ruse ou se laissera-t-elle détourner?
Ce comportement ne peut être lié à des signes visuels ni olfactifs, car l'endroit peut se trouver loin du nid. C'est pourquoi une sorte de mémoire musculaire kinesthésique a été proposée pour l'expliquer. Cette expérience du déplacement latéral d'une fourmi produit cependant des résultats aberrants lorsque l'animal est transporté sur un terrain qui diffère beaucoup de celui qui lui est coutumier.
Nullement. Dès qu'elle a touché terre, elle se retourne de 45 degrés et reprend résolument son ancienne ligne de marche. Mais elle court maintenant parallèlement au chemin suivi tantôt, à 3 mètres environ à droite. Après avoir parcouru la distance requise pour aboutir à l'entrée de son gîte, elle se met à tournoyer, cherchant manifestement la porte de sa demeure, en vain évidemment.
On voit que, selon les circonstances, un animal peut fort bien user de l'un ou de l'autre des procédés qui sont à sa disposition, ou même de plusieurs à la fois.
Ces considérations, extrêmement résumées au point qu'elles en sont déformées, et je m'en excuse humblement, sont empruntées aux travaux théoriques du célèbre mathématicien von Neumann sur le fonctionnement, non point de la fourmilière, mais du cerveau. Je ne veux pas dire par là qu'il convient de comparer la fourmilière à un cerveau, l'analogie serait par trop grossière. Mais seulement que les mécanismes qui relient les uns aux autres les éléments de la fourmilière et du cerveau ont par leur nombre et leur caractère aléatoire, c'est-à-dire disposé au hasard, quelque chose de commun. La principale conclusion à en tirer, c'est que ce ne sont point les éléments qui comptent ici, qu'ils s'appellent fourmis ou cellules nerveuses, c'est l'ensemble, la construction, ou, comme disent les électroniciens, le mode de câblage, en un mot, toute la machine.
Elle se montre alors complètement désorientée. Mais même lors d'un transport sur un terrain semblable, la fourmi retourne parfois à l'endroit où elle a été capturée pour rentrer ensuite droit à la fourmilière. On peut en conclure que l'orientation visuelle à l'aide de quelques objets distants de grande dimension peut fort bien jouer un rôle.
On comprend alors pourquoi la fourmi prise isolément est si stupide. C'est que dans le minuscule grumeau de substance nerveuse qui lui sert de cerveau, et qui ne comprend pas beaucoup plus de 100 000 cellules, un très petit nombre de consignes seulement se trouvent inscrites. Par exemple, non pas « prépare une nouvelle chambre pour héberger le couvain », mais seulement « creuse ». Ou encore, non pas « transporte les cadavres en dehors de la fourmilière », mais seulement « transporte ce qui ne bouge pas », sans aucune spécification précise de la destination. Simplement, ce qui ne bouge pas doit être porté, plutôt vers le dehors que vers le dedans du nid.
Quand la fourmi à la cigale et son dire « l'été qu'est-ce que son fierté chanter et maintenant j'y pense qu'il fait mieux que tu danses », la cigale sans s'y fâcher et pense « je vais l'écouter ». Et il commence sans plus s'en faire à faire un swing comme Fred Astaire. Elle en a tellement des succès que tous les animaux y sont tous épatés. Il y en a même un petit puce qui s'appelle Antoinette qui crie à tous les autres « venez voir Mistinguette ». Si vous voyez comme il danse, vous êtes tout bouleversé. Il est kiff-kiff une vampe, qu'est-ce qu'il fait comme succès? Ce qui fait que la cigale, il devient grand vedette. Il en a des bijoux, des fourrures, des toilettes et même un petit simka qu'il en a le gazogène.
Comme tout le monde possède la même vague inclination, le cadavre est finalement porté à l'extérieur, pourvu seulement que les éléments de transport soient nombreux. Ce qui nous assure qu'en tout endroit, à tout moment, une quantité raisonnable d'éléments renfermeront en eux l'ordre de portée à son degré maximum.
Un un jour inondation dedans la fourmilière. La fourmi, il en a foutu. Il perd tout son capital avec tous ses revenus. Alors en pleurant pour la route, il s'en va. Et voilà Cigale qui s'avance à petits pas. Côté l'OED, j'y suis tout ruiné. Moi, il n'y en a plus l'argent, il n'y en a même plus de tickets. La cigale, il lui dit, l'été, qu'est-ce que t'es sans faire? Eh bien, la fourmi est déjà entassée pour manger, pourquoi l'hiver, il n'est pas bon? Alors, j'y faisais des grandes provisions. La cigale qui fait sourde oreille, dit, écoute, je vais te donner un merveilleux conseil. Maintenant, il n'y en a plus rien, je t'ai déjà recarbé, c'est bien dommage. Alors, pour me faire plaisir, va t'inscrire au chômage.
Une pareille disposition est sans doute obligatoire. Étant donné la multiplicité des tâches que doit accomplir la colonie des insectes sociaux, s'il fallait que chaque individu en ait une idée précise, son cerveau devrait être au moins gros comme une pomme. Or, il n'atteint pas la taille d'une tête d'épingle. Il n'y a donc pas d'autre alternative que de faire reposer le destin de la colonie, non pas sur tel ou tel élément en particulier, mais sur l'ensemble des connexions entre fourmis. Telle est la version moderne de l'esprit de la ruche ou de la fourmilière dont parlaient les vieux auteurs.
Mortalité. Quand il y en a l'argent, il vaut mieux dépenser. Pourquoi, quand toi tu es mort, tu peux plus t'amuser?
Ces mœurs étranges trouvent leur maximum avec Strongylognathus huberi, qui pille les nids de Tetramorium cestbitum.
Les ouvrières de Polyergus ont perdu l'instinct de se nourrir et dépendent donc entièrement de leurs esclaves. Aussi, une colonie est d'autant plus florissante qu'elle a plus d'esclaves. Comment une reine amazone s'y prendra-t-elle pour s'établir dans un nid d'esclaves? Comment amènera-t-elle les Formica fusca, par exemple, qui se dressent devant elle, les mandibules ouvertes, menaçantes, prêtes à mordre, et l'abdomen déjà recourbé pour arroser d'acide formique tout ce qui n'a pas leur propre odeur familiale? Comment les amènera-t-elle à la lécher, la caresser, la nourrir de leur bouche comme leur propre mère? La chose, en effet, n'est pas toujours facile. Et mainte souveraine amazone paie de sa vie l'audace que lui impose son instinct. Réussit-elle enfin à pénétrer dans un nid normal de l'espèce esclave, elle ne recule pas devant le meurtre et le carnage. Elle fond droit sur la reine, lui perce le crâne de ses mandibules recourbées et pointues. Ce coup de force jette la panique dans le reste des Fusca, qui cessent toute résistance, tolèrent désormais l'intruse avec méfiance d'abord, passivement ensuite, puis lui témoignent une bienveillance active et l'acceptent finalement comme leur propre reine.
Les ouvrières éclosent des cocons rapportés comme butin, non seulement soignent le couvain de leur vainqueur, mais elles participent au futur pillage de leur propre espèce.
Que se veulent-elles à se tapoter ainsi mutuellement au rythme effréné de leurs antennes, se cognant la tête par saccades rapides et nerveuses? Si ce sont des myrmicines, vous pourrez même les voir soulever légèrement l'abdomen et le mettre en vibration. En fait, une conversation très importante a lieu entre ces deux individus. La transmission d'un signal d'alarme, la communication d'un état d'excitation suprême qui se répand ainsi dans toute la colonie en y provoquant le sauvetage, la défense ou la fuite générale. Voilà qu'un petit paquet d'œufs est saisi et transporté en hâte. Des larves, des nymphes aussi, tout se met à bouger maintenant et à disparaître dans les couloirs souterrains.
Comme chez les termites, les sexués mâles et femelles sont ailés à leur éclosion, mais perdent leurs ailes après le vol nuptial. Leurs organes d'essence, surtout yeux et antennes, sont particulièrement bien développés, leurs mandibules sont au contraire faibles. On observe quelquefois, outre les mâles de taille normale, de grands mâles et des mâles nains.
Cette enveloppe membraneuse se déchire au moment de la naissance de la larve. Dès que celle-ci en est sortie, la membrane est immédiatement et avidement dévorée par une ouvrière quelconque. Raison pour laquelle il est si rare et même tout à fait exceptionnel d'observer le phénomène de l'éclosion. La larve, ainsi née, est un petit ver blanc sans pattes, légèrement courbé. Les 10 segments du corps sont recouverts de poils dorés et crochus, grâce auxquels les larves adhèrent les unes aux autres et peuvent être transportées par paquets entiers. Transport et léchage de ces larves constituent, au printemps et au début de l'été, la principale occupation de la plus grande partie de la colonie. La nourriture peut leur être administrée de plusieurs façons, selon les espèces.
Plus rarement, chez quelques espèces souterraines ou parasites, il existe des malaptères qui diffèrent des ailés par la réduction des yeux et la diminution du thorax qui ne porte plus d'ailes. Ils ressemblent aux ouvrières et sont appelés ergatomorphes.
La nutrition par régurgitation se réalise quand une ouvrière, avec force vibration des antennes, tire de son gosier une gouttelette de liquide et la présente à la larve. Quand des têtes de larves apparaissent dans un paquet d'œufs, une ouvrière vient aussitôt les relever de ses mandibules, dresse la larve droite devant elle, tandis que parfois, une deuxième ouvrière ingurgite une gouttelette de liquide transparent à chaque petite bouche du paquet.
Formica rufa s'oriente également à l'aide du soleil et même de la lune. Mais toute source artificielle de lumière polarisée peut également l'aider dans son orientation. Lorsque le ciel est couvert, c'est probablement sa mémoire visuelle qui la sert. On peut expérimenter de manière à faire concourir les signes optiques et la lumière polarisée du ciel bleu. Dans ce cas, la fourmi choisit un chemin intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle tient compte des deux types de renseignements à la fois.
Mais bien souvent, la vie n'est pas toujours aussi poétique. La nourriture solide, morceaux d'insectes par exemple, est déposée devant ou même sur les larves, ou plus simplement encore, les larves sont elles-mêmes déposées sur une proie introduite dans le nid. Nous avons observé plusieurs fois, véritable cannibalisme, que des larves dévoraient les œufs de leur propre colonie. Suivant certains auteurs, ce mode de nutrition serait communément utilisé par certaines espèces.
Formica rufa peut être dressée à chercher de la nourriture disposée sous un angle déterminé par rapport à une source lumineuse artificielle. Lorsqu'on interrompt la distribution de la provende, les fourmis viennent la chercher encore pendant au moins 5 jours, ce qui montre l'étendue de leur mémoire visuelle. Comme Myrmecia rubra, Formica rufa tient compte du mouvement apparent du soleil. Elle aussi possède donc une horloge interne.
Il y a des fourmilières dans la forêt de Fontainebleau qui représentent à peu près 2 mètres cubes de brindilles, ce qui montre qu'une quantité de fourmis ont apporté les brindilles. Il a bien fallu qu'elles les apportent. Et quelquefois, certaines de ces fourmilières sont vieilles de plus de 100 ans. C'est assez curieux, ça mérite d'être signalé.
Ce matin, juin, je crois le 7, elle porte un brin, un fétu. Cette fourmi, taille ordinaire, qui n'a pas la moindre importance, passe d'un trop simple et normal. Il va pleuvoir, cela se sent, et je suis seule.
Polyergus rufescens et Formica sanguinea, nos plus authentiques esclavagistes, organisent de constantes expéditions prédatrices autour de leur nid pour capturer les ouvrières qui doivent remplacer les esclaves mortes. Cet instinct ravisseur est tout à fait remarquable et son importance biologique est essentielle.
Moi seule au monde ai vu passer cette fourmi. Au temps des Grecs et des Romains, d'autres fourmis couraient ainsi dont rien jamais ne parle plus. Cette fourmi taille ordinaire, qui serait-elle? Comment va-t-elle? Et toi et moi qui sommes-nous? Et comment tournent les planètes qui n'ont pas la moindre importance? Que fait l'histoire au fond des cœurs? Et comment battent ces cœurs d'hommes qui n'ont pas la moindre importance?
Par un beau jour d'été, écrit-il, une esclavagiste en patrouille vient de découvrir un nid de fourmis grises noires, des Fusca. La voilà qui se hâte de rentrer au bercail. À grand mouvement d'antenne, elle fait part de sa découverte. Et déjà, sous la direction de notre éclaireuse, la colonne pillarde s'ébranle. La distance entre les deux nids peut atteindre 80 mètres. Elle est franchie à marche forcée, à la vitesse d'un mètre environ à la minute. La bande vient enfin de toucher au but. Elle se déploie autour du nid et l'assaut est donné contre toutes les entrées. Surprise, les Fusca n'ont pas eu le temps de dépister la manœuvre. Elles sont bientôt débordées et ne peuvent offrir qu'une résistance symbolique et de courte durée.
Que font les fourmis de l'esprit ce matin, juin, je crois le 7, sans aucun signe distinctif? Il va pleuvoir, cela se sent. Cela fera du bien au champ. Et ta fourmi, taille ordinaire, qu'en as-tu fait? Que devient-elle? Crois-tu qu'elle était amoureuse? Crois-tu qu'elle avait faim ou soif? Crois-tu qu'elle était vieille ou jeune ou triste ou gaie, intelligente ou bien quelconque?
Vous savez, on n'est pas spécialiste de tout et je ne suis moi-même pas omniscient, bien loin de là. Simplement, je me suis intéressé beaucoup aux abeilles et aux fourmis, spécialement aux fourmis. Et ça fait 22 ou 23 ans que j'étudie les fourmis.
Je commence quand même dans mes expériences à faire un peu moins de sottises qu'il y a une dizaine d'années, mais je m'aperçois que dans 20 ans d'ici, j'en serai peut-être un tout petit peu plus long. Mais malheureusement, comme on disait quand on savait le latin, vous savez, ars longa vita brevis, c'est long d'apprendre l'art, mais la vie est courte.
Va vers la fourmi, observe ses voies et apprends la sagesse.